Amis auditeurs, auditrices, bonjour. Aujourd'hui, nous avons la chance et la joie d'accueillir Marie Moreto. Marie, bonjour.
Bonjour.
Avec vous aujourd'hui, nous allons aborder la question d'un projet de loi gravissime qui encadre ou qui veut à nouveau encadrer l'accompagnement et l'information des personnes enfermées en centre de rétention administrative. Comme vous êtes déléguée nationale en région Languedoc-Roussillon pour la CIMAD, vous allez pouvoir nous éclairer sur cette problématique importante qui remet en cause les droits de l'homme.
Oui, tout à fait. Ben merci de m'avoir invitée. Effectivement, on a un projet de loi actuellement qui a été discuté le 12 mai au Sénat et dont on attend une date pour une discussion à l'Assemblée nationale. Donc on est en plein dans l'actualité, un moment de mobilisation important.
Et vous allez peut-être rappeler à nos auditeurs ce qu'est la CIMAD, s'il vous plaît.
Alors la CIMAD, très rapidement, elle a été fondée en 1939, au début de la Seconde Guerre mondiale, pour venir en aide, elle est membre de la Fondation du protestantisme évidemment, et elle a été créée pour venir en aide au départ pour les personnes qui fuyaient le nazisme, au départ pour des Français, j'aime bien rappeler ça, qui fuyaient l'Alsace-Lorraine pendant l'occupation, avec l'arrivée donc du fascisme et du nazisme en France, et donc ensuite elle est restée auprès des personnes exilées qui fuient pour des raisons diverses et variées leur pays d'origine.
Voilà. Alors, vous allez nous décrire un petit peu ce projet de loi et les dangers qu'il représente pour ces personnes.
Oui. Avant tout, ce projet s'inscrit dans un contexte qu'on connaît malheureusement depuis quelques années maintenant, qu'on est déjà venu échanger ici sur la loi immigration, sur d'autres atteintes aux droits des personnes migrantes. Donc, on est dans ce contexte-là. On est dans la continuité. Ce qu'on a vu arriver, donc c'est une proposition de loi portée par notre ministre Monsieur Retailleau évidemment, qui a fait donc de la chasse aux exilés quand même une obsession, on s'en rend compte. Et donc ce projet de loi, il a pour objectif de sortir les associations des centres de rétention et de confier à l'OFI la mission de défense et d'accompagnement des personnes retenues.
Donc, alors, nous allons rappeler juste que l'OFI, c'est l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Tout à fait.
C'est donc un organisme qui dépend en quelque sorte de l'État.
C'est un organisme qui est complètement sous la tutelle directe du ministère de l'Intérieur. Et donc, ça fait partie des choses qu'on questionne évidemment fortement, puisque la question de l'indépendance de cet organisme, elle se pose. Le Conseil d'État, en 2009, il a rappelé qu'il était que pour que le droit au recours effectif, qui est une exigence constitutionnelle, fonctionne en fait, pour que ce soit bien effectif, il faut qu'il y ait un organisme indépendant qui permette ça. Donc aujourd'hui, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que l'OFI, qui est sous la tutelle du ministère, va accompagner les personnes pour contester des décisions qui sont posées par ce même ministère, par les préfectures. Donc évidemment, on se rend bien compte que là, il y a quelque chose qui ne peut pas fonctionner. Ce qu'on nous dit également, c'est que l'OFI aura pour objectif simplement d'apporter une information aux personnes retenues, que ce soit ensuite les avocats qui vont faire le travail d'accompagnement. Mais aujourd'hui, les syndicats des avocats de France ils se sont positionnés contre ce projet de loi également, puisque ce sont des avocats qui vont travailler à l'aide juridictionnelle et les missions qui leur incomberaient seraient vraiment trop importantes pour qu'ils puissent les faire dans ces conditions-là.
Est-ce que vous pourriez nous rappeler ce qu'est un centre de rétention administrative, s'il vous plaît ?
Alors, les centres de rétention, c'est des lieux qui sont définis comme des lieux non pénitentiaires, mais qui ressemblent complètement à des prisons, c'est des lieux d'enfermement. Il y en a 24 en France et une vingtaine à Mayotte. Il y a à peu près, alors sur le dernier rapport de 2023, je n'ai pas les chiffres 2024, mais en 2023, c'était plus de 46 000 personnes qui étaient enfermées dans ces centres par an. Et donc, ce sont des centres où, en fait, on enferme des personnes qui sont exilées, qui n'ont donc pas de titre de séjour au moment où elles sont enfermées, en vue de leur départ dans leur pays d'origine ou un pays qui accepte de les recevoir. Pardon. Et dans ces centres, depuis leur création, il y a toujours eu la présence des associations. Donc au départ de la CIMAD, en 2010, ça a été ouvert, il y a d'autres associations aujourd'hui qui travaillent dans ces centres, pour garantir en fait tout simplement que les personnes enfermées puissent voir leurs droits puissent avoir leurs droits, puissent exercer leurs droits, pardon, le droit à un recours, préparer leur passage devant un juge, recueillir les pièces nécessaires pour que leur situation soit examinée, et puis aussi regarder dans quelles conditions elles sont enfermées, puisqu'on a aussi un rôle très important, à la fois pour permettre l'exercice des droits, mais aussi on a un rôle de vigie. Et sortir les associations aujourd'hui de ces centres, c'est quand même permettre à des espaces d'enfermement de passer complètement sous le radar et donc d'accepter de ne pas voir ce qui se passe dans ces lieux-là, ce qui est quand même très problématique.
Et du coup, ce projet de loi a donc été examiné au Sénat, je crois.
Oui.
Et quelle est la procédure suivante ?
Alors, il a été examiné au Sénat, il en est ressorti durci. Donc il y a eu des amendements qui sont venus rallonger la durée encore par rapport à ce qui était prévu, en tout cas les cas dans lesquels la durée peut être allongée. Aujourd'hui, on attend que ça soit mis à l'agenda à l'Assemblée nationale. On n'a pas de date précise pour l'instant. Ce qu'on sait, c'est que il y avait une volonté que ce soit que cette loi soit en vigueur au 1er janvier 2026. Si je me souviens bien. Donc ça va arriver assez rapidement. Donc on sait que ça va être discuté. Si c'est pas avant l'été, ça sera en septembre.
Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu quelles sont les personnes, vous l'avez dit en gros, mais de manière plus détaillée, parce que nous on voit bien qu'en France, un certain nombre de politiques, de politiciens, activent la peur de nos concitoyens. Donc ce serait intéressant que vous nous disiez un petit peu quels sont ces hommes, ces femmes, et peut-être ces jeunes, qui sont concernés par ces centres de rétention administrative. Et sont-ils vraiment des gens qui vont mettre en péril la sécurité des concitoyens ?
Alors, les centres de rétention, comme je l'ai dit, ce n'est pas des centres pénitentiaires. Donc, les personnes qui sont enfermées en centre de rétention ne le sont pas pour des raisons de troubles à l'ordre public ou de criminalité. Il n'y a pas besoin d'avoir commis un délit ou quoi que ce soit pour être enfermé en centre. C'est uniquement de l'enfermement sur une question administrative, donc de statut juridique concernant le séjour. C'est la seule base de l'enfermement, c'est celle-là. Aujourd'hui, on parle quand même de pouvoir enfermer pendant 210 jours des personnes qui n'ont absolument rien commis de grave dans notre pays, si ce n'est que d'essayer d'avoir des papiers ici, quoi. Donc, sur les profils, il y a des profils complètement différents. Enfin, il y a absolument tout. Toutes les personnes, évidemment, peuvent être touchées. Des personnes qui ont pu être en situation régulière pendant très longtemps et qui ont perdu leur titre de séjour suite au durcissement de la loi. Des personnes qui viennent d'arriver. Des personnes qui sont déboutées du droit d'asile. Mais on a aussi beaucoup d'erreurs de procédure, quand même. Il faut savoir qu'aujourd'hui, comme je vous le disais, on a une politique où vraiment il y a une... j'ai pas envie de dire une chasse, mais on est quand même dans un contexte très particulier, il faut s'en rendre compte. Donc on a une augmentation de 60% en 5 ans du nombre d'OQTF, avec des préfectures qui sont débordées, des tribunaux administratifs qui sont débordés, et dans ce contexte-là, forcément, il y a des erreurs. D'où aussi l'importance que les associations soient présentes dans les centres. On va pouvoir... c'est le dernier rempart, en fait, contre une expulsion, et on a des personnes qui vont être placées en rétention avec comme pays destination des pays où la France elle-même reconnaît que ce sont des pays non sûrs, donc des pays où les personnes vont être en danger. Et donc c'est le dernier rempart pour éviter ces expulsions-là. Donc voilà, c'est quand même un projet de loi très problématique. Et il faut vraiment rappeler que cet argumentaire constant de la criminalité des personnes exilées, il se déconstruit par les chiffres, on le voit. Et donc ce projet de loi, il surfe là-dessus, comme tous les projets qui tendent aujourd'hui à toucher les exilés. Mais il n'a aucune base réelle.
Vous avez dit OQTF, ça veut dire obligation de quitter le territoire français. Oui. Nous en entendons souvent parler aux informations, mais c'est important de remettre le véritable sens de cette orientation politique par rapport à ce climat de peur et de crainte qui est actionné au niveau de nos contemporains. Est-ce que vous pourriez nous dire maintenant, parce que ces centres de rétention administrative, et on insiste bien sur la question administrative, parallèlement sur le risque qu'on ferait courir à des personnes en les renvoyant dans des pays où il y aurait un danger pour eux, comment la Déclaration internationale des droits de l'homme et du citoyen est à la base de votre combat ?
Alors, c'est à la base de notre combat parce qu'effectivement, c'est quand même notre socle démocratique. On se base notamment sur cette déclaration, comme je vous disais tout à l'heure, sur la question du recours effectif. Aujourd'hui, on n'a pas le droit d'enfermer des personnes sans qu'à un moment donné, un juge puisse examiner cette décision-là. Ça reste primordial qu'on se batte pour ça. Et donc, on se bat, et ça, c'est l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme, on va aller effectivement puiser toute notre mobilisation dans ces textes fondateurs, dans nos valeurs aussi. La France a été condamnée à 11 reprises par la Cour européenne des droits de l'homme pour l'enfermement des enfants dans les centres de rétention. Aujourd'hui, on peut encore enfermer des enfants en centre de rétention, notamment à Mayotte. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est important qu'on ait des textes de loi qui viennent aujourd'hui un petit peu être des remparts, même s'ils sont régulièrement attaqués. On le voit encore aujourd'hui. Le Conseil d'État, la Déclaration des droits de l'homme parlent d'un besoin de soutien des personnes enfermées. Et aujourd'hui, on revient à l'attaque. Et ce qui est important dans ce projet de loi, mais dans tous les projets de loi qu'on a vu arriver ces dernières années, avec l'arrivée notamment du ministre... Et puis du Rassemblement National, hein, cette grande vague qui nous arrive à chaque élection, c'est cette question de remise en cause de l'état de droit et de notre démocratie à travers, enfin, pour satisfaire un électorat et sur le dos des personnes exilées, on va aujourd'hui remettre en cause des principes qui sont quand même fondateurs.
Tout à fait, merci de le rappeler. Surtout que on peut penser légitimement que tout un chacun, à un moment donné, pourrait se retrouver exilé sur une terre qui n'est pas la sienne. Mmh. Et donc, il y a tout un combat pour aujourd'hui, pour d'autres, mais qui demain peut être le nôtre.
Mmh. Oui, complètement. C'est pas complètement dystopique de se dire ça. Il y a quand même aussi la question de l'enfermement. Au-delà d'être exilé, aujourd'hui, on peut être amené effectivement à être en garde à vue, on peut être amené à un moment donné peut-être avoir une période de détention dans sa vie. Et ça fait partie des garanties pour lesquelles on doit se battre, et pour les personnes exilées, mais aussi pour tout citoyen, en fait, que personne ne puisse être enfermé sans qu'il y ait un regard transparent sur ses conditions d'enfermement et sans qu'il puisse avoir accès à un juge qui viendra voir si tout ça a été fait dans les règles.
Et du coup, la question qui se pose, c'est comment l'État pourrait-il se sentir légitime de retirer à ces associations, garantes d'une neutralité et en même temps d'un respect de la loi, pour ces personnes exilées dans ces centres, comment peut-il s'immiscer à ce point ?
Je ne sais pas si c'est... S'immiscer, si ce n'est reprendre le pouvoir, finalement, et complètement nous évincer les associations. C'est un manque de confiance absolue. On a entendu beaucoup de choses. Il y a eu énormément d'attaques dans l'hémicycle au Sénat sur notamment la CIMAD. On a aujourd'hui une remise en cause très forte du rôle des associations. On a un problème en termes de liberté associative en France. Et donc ça touche évidemment les associations qui travaillent autour des questions de droits des exilés, mais pas que. On s'en rend compte aussi dans les associations qui défendent des causes écologistes, des associations féministes, antiracistes. On a des attaques constamment sur nos libertés associatives, donc ça c'est aussi important de le rappeler. Dans ces discussions-là, on essaye de rencontrer des députés. On essaye de faire notre travail de sensibilisation, d'information, de remettre aussi des faits, puisqu'on est présent et qu'on écrit des rapports sur ce qui se passe en rétention. Et on se rend compte qu'on est soupçonné, qu'on est moins écouté. Donc il y a aussi cette tendance-là de l'État, finalement, aujourd'hui, à ne plus faire confiance aux associations, à vouloir reprendre la maîtrise de beaucoup de domaines où on estime peut-être qu'on serait un contre-pouvoir qui, aujourd'hui, n'est plus accepté.
Ce qui est intéressant, parce que ça pose quand même la question de la liberté de droit dans un pays dit de droit. Et nous savons combien le travail effectué par les bénévoles des associations ne pourra jamais être identique à celui qui serait, je vais mettre un conditionnel, assuré par des fonctionnaires de l'État, ayant des objectifs bien précis, dont nous avons entendu ce que vous nous avez dit. Est-ce que vous pourriez nous dire, vous avez abordé tout à l'heure la question du nombre de jours. Actuellement, je crois que c'est de 90 jours. 90 jours, oui, c'est ça.
Oui, c'est ça.
Dans ces centres de rétention administratifs.
C'est ça. On a eu un durcissement continu, hein, je voulais quand même le signaler. La rétention, elle a été... les lois qui tournent autour de comment ça se passe ont été posées vraiment dans les années 80. Et donc, on avait à l'époque une durée de rétention maximum à 35 jours. Ensuite, on est passé à 45 jours. Ensuite, on est passé à 90 jours. Et aujourd'hui, on nous parle de 210 jours. Donc, on voit qu'il y a un durcissement constant. Et en parallèle, on a aussi un objectif d'augmentation des placements avec la construction de centres de rétention. Donc, ça, c'est un projet. Hein. 2027, c'est 3000 places qui doivent être créées. Donc, dans notre région, on a notamment à Béziers un centre de rétention qui doit être construit, qui est en projet. Donc, on a à la fois une volonté d'enfermer plus et à la fois une volonté d'enfermer de plus en plus longtemps. Et ce qui vient poser des questions autour des coûts. On n'en a pas encore parlé, mais effectivement, si je peux en dire un petit mot, ça fait partie des choses qu'on a beaucoup reproché aux associations de coûter très cher. Mm-hmm. Et donc, c'est dans les arguments qu'on nous oppose pour évincer les associations des centres. On dit que leur intervention coûterait trop cher. Donc moi, je tenais quand même à rappeler que le budget autour des CRA, donc des centres de rétention, c'est 220 millions d'euros. Et que là-dedans, les associations ne représentent que 6,5 millions d'euros. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que donc, l'augmentation de la durée de rétention à 210 jours va forcément impliquer une augmentation des coûts, et les constructions de centres de rétention vont aussi faire exploser les coûts. Les coûts, ils sont principalement liés à des questions de surveillance, des questions de bâtiment, etc. Donc, le rôle des associations là-dedans, qui, d'autant plus s'il est remplacé par l'OFI, le coût ne sera pas non plus nul. Donc c'est un argument qui est complètement fallacieux, évidemment, on le voit bien, quoi.
Et nous voyons encore une fois combien il est important de déconstruire des informations données à la va-vite, hein, sur les petites news qu'on a du téléphone ou les informations, etc., pour aller au fond des choses. Parce que non seulement il y a l'aspect remise en question des droits de l'homme, et ça je crois que c'est quand même quelque chose de fondamental qui est à défendre, il y a ensuite... les mauvaises informations données par rapport au travail des associations et des bénévoles, donc vous l'avez cité au niveau de ces coûts, et il y a aussi tout l'impact financier qu'il faudra bien rebondir quelque part sur la création de ces centres de rétention administratifs. Donc il y a effectivement des informations qui viennent se télescoper, mais qui ont de quoi interpeller le citoyen que nous sommes. Je vous invite à une pause musicale. Nous allons écouter Gaëlle Faye et sa chanson « Irruption ».
On sort en trombe, en nombre, on se déverse en plaine, en centaines, en millions, en milliards ou en millièmes de quelques simples gouttes. À des marées humaines, des jaillissements d'aurore, pour éclairer des emblèmes, des lanternes dans la tête. Si l'on plonge dans les ténèbres, on nous appelle PD, blancos, bougnoul ou bien nègre. On vit dans la riposte, on réfléchit après coup. On vit extramuros, donc on arrive par vos égouts. Nous sommes des cargaisons de femmes voilées, des you-you stridents, des rastas, des casquettes tournées, des voyous prudents, des espoirs accrochés, des paradis assassinés, des parents épuisés, enfantant des gosses méprisés, de la marmaille bruyante, des petits morveux frisés, engraissés d'allocations qui donnent des prétextes à voter. Trouver des boucs émissaires, les égorger pour l'Aïd, mourir dans une clairière sans treillis pour ce pays, l'affiche et couleur sang. Emmanouchian vient pas d'Auvergne, le tirailleur t'emmerde, il a fécondé ta grand-mère, on investit brognard, le dos mûr comme Jean-Pierre Thorne. On s'en fout du grand soir parce que la nuit c'est bien trop morne. On veut même pas de soleil, mais des éclipses pour faire l'amour, pour que l'instant soit bref, intense comme un fruit qu'on savoure. Aux arts miraculeuses, on a lu Césaire et Prévert. On viendra vous faire la guerre avec la parole poudrière. On désigne plus l'ennemi parce qu'il est partout, même en nous. On va mourir debout parce qu'on a vécu à genoux. On est sourd aux slogans élimés par trop de manifs. On devient arrogant, on veut rimer comme des canifs. On a plus 20 ans, mais on n'en aura jamais 60, car on bouffe du du bisphénol à l'heure d'une planète suffocante. On fait de nous des enfants pour nous interdire des luttes. Donc nous, on prend Peter Pan, on va redevenir adultes. On a coincé nos rages entre le mérite et l'héritage. Et les puissants confisquent ce que les pauvres se partagent. À leur chaise musicale, personne ne joue, personne s'assoit. On occupe du terrain, être indigné, ça va de soi. Angela qui fait une choix pendant que ton papa est bien là. On va ouvrir les portes de Soledad ou Attica. Pharmacodépendant des OGM pour nous doper. J'ai recraché l'assiette, monté le cheval et galopé. Braqué un RER, diligence, la pache de Belleville. Viendra crier vengeance comme Balavoine arrive en ville. Ils veulent nous assigner des places et nous faire signer. Les amoureux au banc public n'arrêteront jamais de s'aimer. Depuis que nos tchèques ressemblent à des poignées de main de montoir, on ne laissera personne parler au nom de nos espoirs. On n'est pas des victimes, encore moins des condamnés. On arrivera de l'aube en éruption spontanée.
Amis auditeurs, auditrices, nous retrouvons notre invitée, Marie Moreto, qui est déléguée nationale en région Languedoc-Roussillon pour la CIMADE. Et nous abordons avec vous la poursuite concernant les actions contre ce projet de loi. Mais avant, nous avions envie de vous donner comme information quelques éclairages sur ce qui se passe actuellement à Mayotte.
Oui, à Mayotte, il y a un projet de loi, donc Mayotte debout, suite au cyclone qui a ravagé l'archipel, où donc bon, l'objectif affiché est évidemment de reposer la question du fonctionnement des institutions et de la reconstruction de Mayotte. Évidemment, dans le contexte actuel, eh bien, il y a eu l'opportunité pour nos dirigeants de glisser à nouveau des mesures contre les personnes exilées à Mayotte, et notamment sur la rétention. Donc je rappelle qu'effectivement, dans les centres de rétention à Mayotte, il y a des enfants qui peuvent être enfermés. Donc il y a le projet de construire de nouvelles unités familiales. Et puis c'est un régime dérogatoire, donc où les droits sont beaucoup moins respectés qu'en France, avec des durées de rétention qui peuvent varier, avec des passages devant le juge beaucoup plus compliqués, et un contexte vraiment difficile de tension très forte sur la question des exilés à Mayotte. Donc ce qui est intéressant de noter, c'est de voir à quel point on peut profiter, même après un drame humanitaire. Finalement, la question des exilés, elle revient, elle repasse la porte et de façon assez cynique, je trouve, ici aussi, quoi.
Et je crois que vous me disiez hors antenne qu'il y a un nombre de centres importants à Mayotte.
Oui, il y a une vingtaine de centres à Mayotte, c'est des expulsions principalement vers les Comores, hein, mais pas que, mais effectivement avec des temps de rétention extrêmement courts, des expulsions très rapides et des passages devant le juge très rares. Donc les associations sont en grande difficulté sur Mayotte, des conditions aussi d'enfermement très très difficiles. Donc oui, il y a une très forte pression et on a un peu une crainte. Mayotte, c'est un peu un laboratoire pour tester aussi des choses problématiques. Et donc cette question des unités familiales, on a un peu une crainte qu'avec le projet de loi qui se durcit très fort sur la rétention en France, en métropole, que finalement ça pourrait peut-être faire jurisprudence et des émules et venir aussi se matérialiser chez nous.
Vous nous attirez vraiment l'attention sur les risques dans lesquels les politiques actuelles entraînent par leurs décisions, dans lesquelles tout n'est pas dit. Et une vraie question du droit de l'homme et de l'enfant sont remis en question. Ouais. Et une fois que ce sera voté, ce sera trop tard pour agir. Donc je pense que ça nous permet d'arriver maintenant sur les actions que la CIMADE propose.
Oui. Alors, d'abord, on a une action de sensibilisation. Hein. On essaie de communiquer au maximum au grand public, puisque on le voit, on a besoin de faire un travail de déconstruction de plus en plus important des fake news, toute cette virulence qu'il y a envers les personnes exilées. On a besoin de déconstruire un discours qui est très présent dans les médias. Et notamment dans les médias de masse. Donc d'abord, on a un devoir de communication, on va dire, de sensibilisation, et à la fois du grand public, mais aussi de nos élus. Actuellement, donc, on travaille à rencontrer des députés. Alors évidemment, on ne va pas rencontrer les députés de tous bords, hein, puisqu'il y en a pour qui c'est une cause perdue. Non, mais dans le sens où, bon, voilà, on n'a pas forcément les mêmes objectifs, la même vision d'une société. Donc, on va essayer de rencontrer des députés pour les sensibiliser à ce qui se passe dans les centres de rétention, leur faire visiter des centres de rétention, puisqu'il faut savoir que les députés ont le droit d'entrer dans les centres de rétention. Donc, on les invite, et j'en profite pour inviter nos députés de nos circonscriptions à aller se rendre dans les centres de rétention de Sète, de Perpignan, de Nîmes, pour voir comment sont retenues les personnes. Donc c'est important que les députés qui vont voter cette loi puissent vraiment prendre conscience des conditions de vie des retenues, puisqu'on parle aujourd'hui d'une extension à 210 jours. Donc il faut voir dans quelles conditions vont être retenues les personnes 210 jours. Et puis aussi rencontrer les équipes sur site, voir exactement quel est leur travail. Et ce qui a été très intéressant, c'est que là, on a des députés qui sont sortis des centres de rétention choqués, qui n'avaient absolument pas idée de comment ça se passait, et qui ont pu rencontrer des chefs de centre, qui, ben, pour le coup, sont sur la tutelle du ministère, hein, et qui, ces chefs de centre, ont pu expliquer aussi pour eux-mêmes à quel point cette loi, en fait, ne devait pas passer en l'état. Donc c'était très intéressant d'avoir quand même des personnes, des forces de l'ordre, qui venaient à côté des associations contester ce projet de loi. Donc il y a toutes ces rencontres avec les députés, avec cette sensibilisation qui est importante. Il y a évidemment aussi tout ce besoin de plaidoyer, et puis cette unité aussi des associations qui s'est construite, qui est très forte. On a plusieurs associations qui interviennent dans les centres de rétention, et toutes les associations aujourd'hui ont signé une tribune collectivement dans Le Monde pour dénoncer les conditions posées par la loi. Donc on a le groupe SOS, on a France Terre d'Asile, on a Forum Réfugiés, on a la SFAM, mais on a aussi des associations qui n'interviennent pas en rétention mais qui sont alertées par les atteintes à l'état de droit, hein, dont on a déjà parlé, comme le syndicat de la magistrature, mais aussi Amnesty International, la Ligue des droits de l'homme. Voilà. Donc c'est quand même assez réconfortant de voir que toutes les associations sont solidaires autour de la contestation de ce projet de loi.
Oui, je crois qu'il y a quelque chose qui se prépare ce week-end.
Alors, ce week-end, à Montpellier, la CIMAD, elle va tenir un stand dans le Festival des Fanfares. Donc, on va pas faire un focus particulièrement autour de la rétention, mais c'est un moyen de nous soutenir, de venir nous rencontrer. Voilà, on va vous proposer plein de petits plats du monde entier, avec des cuisiniers du monde entier. Donc, c'est aussi chouette de mettre dans notre engagement un peu de joie et de rencontre dans d'autres espaces. Donc voilà, on sera présent là, on est présent sur le festival aussi des Gueules Rouges, dans les Cévennes, et puis on va tenir plusieurs événements, je pense notamment sur Béziers, autour de la contestation de la construction du centre de rétention. Les équipes, elles sont quand même très mobilisées autour de ce projet-là. Et là aussi, c'est important d'alerter un peu les Biterrois sur ce que ça veut dire d'avoir un centre de rétention, c'est quoi les coûts pour la collectivité, c'est quoi les coûts sur le tribunal aussi, l'engorgement des tribunaux, il faut en parler aussi. Et puis que les voisins puissent aussi se projeter avec le fait d'être voisin d'un centre où on enferme des personnes qui n'ont rien fait concrètement. Donc il y a tout un travail de sensibilisation qui est important aussi sur Béziers. Mais ce week-end, oui, vous pouvez venir nous retrouver au Festival des Fanfares à Montpellier. On sera ravis d'échanger avec les personnes qui passeront nous voir.
Il est où ce festival, Marie ?
Il est dans le quartier Boutonnet. Donc nous, on est dans le quartier des Beaux-Arts, sur Montpellier. Et donc ce festival, il se tient dans tout le quartier, sur toute la soirée du samedi.
Et c'est important de montrer que ces personnes ne sont pas que des risques, mais qu'elles ont aussi, au niveau culturel, au niveau social, au niveau de leur principe de vie, des tas de choses à nous apprendre. Et nous pouvons donc partager aussi de manière humoristique ou joyeuse, et faire connaissance avec d'autres personnes qui ont d'autres manières de vivre que nous.
Oui, ça, c'est vraiment un discours qu'on porte, et c'est aussi pour ça que c'est important que les associations restent auprès des personnes et continuent de les accompagner, parce que au-delà de l'exercice des droits, au-delà du rôle de vigie démocratique, on est aussi cette espèce de pont entre les citoyens français et les personnes exilées, et c'est important qu'on crée des espaces de rencontre. Ils sont rares aujourd'hui, Il y a des craintes, beaucoup. Il y a un discours qui fait que les personnes se renferment. Et c'est important qu'on puisse proposer des espaces où les personnes se rencontrent. Moi, je suis convaincue que c'est aussi par du partage autour de choses très simples, du sport, de la culture, des repas, qu'on va venir déconstruire des choses et remettre du réel, en fait. Parce que si les personnes se projettent dans leur vie quotidienne, finalement, les exilés ne viennent pas tellement nous poser problème, voire pas du tout. Donc...
Vous nous avez parlé des centres de rétention administratif à Sète, Perpignan et Nîmes. Donc, ce sont les trois qui existent sur l'Occitanie.
Il y en a aussi à Toulouse.
Toulouse.
Oui, Bordeaux, après plus haut vers Andaille. Ouais.
D'accord. Et donc, il y aurait en construction, en projet, celui de Béziers.
Tout à fait.
D'accord. Oui. Les personnels qui travaillent dans ces centres de rétention sont payés par le ministère.
Les personnels qui travaillent sont payés par... On a une délégation, donc on a une subvention, les associations ont une subvention. Et ensuite, effectivement, avec cette subvention, elles permettent aux salariés d'intervenir dans les centres. Oui.
D'accord. C'est ce qui peut-être expliquerait l'argument qu'ils utilisent pour dire que les associations coûtent trop cher.
Oui, les associations, quand elles sont subventionnées, de fait, effectivement, elles coûtent. Mais c'est un choix de société. Qu'est-ce qu'on fait avec notre argent public aussi? Et dans tous les cas, si ce projet de loi... Enfin, le projet de loi dit qu'il y aura une garantie en dehors des associations, que l'exercice des droits sera effectif. Donc, ce coût-là, il faudra de toute façon qu'il existe. Donc, aujourd'hui, la question, c'est... Est-ce que l'OFI, qui est financée par l'État et qui va prendre en charge ses missions, coûtera moins cher que les associations? Peut-être pas, mais en tous les cas, il aura moins de liberté d'action, ça c'est certain. Et donc, encore une fois, on parle de 6,5 millions d'euros sur un budget à 220 millions, où la question du coût avec l'allongement, la construction, etc., ici, elle n'est pas questionnée. Donc c'est un argument qui ne tient pas si on creuse un peu.
Et puis, je crois que ce qui est important, c'est que la France est reconnue comme un pays où les associations, de par leurs actions, donnent une bouffée d'air, d'oxygène et de garantie aussi de certaines neutralités, de respect du droit, que ce soit national, européen ou international. Et il est clair que les orientations politiques telles qu'elles se dessinent en France ne pourraient pas être aussi garantes de ce respect du droit.
Complètement. Oui, oui. Complètement. Et c'est très important qu'on se dise que aujourd'hui, la question des atteintes aux droits des exilés, elle doit nous interpeller au-delà, puisque c'est des atteintes aux droits, à l'état de droit qu'on constate aujourd'hui.
Oui, puis je crois que ce qui est important en tant que citoyen, c'est de se rendre compte qu'on est matraqué par une information extrêmement réduite. Et il est important que le citoyen aille par lui-même chercher d'autres informations. Ça nous permet peut-être de savoir un petit peu, la CIMAD doit avoir un site, et donc il est possible d'aller se renseigner.
Oui, oui, complètement. On a un site internet, lacimad.org. On a aussi des réseaux sociaux. On est présent sur tous les réseaux sauf X, on n'en fait plus partie évidemment. Mais donc il ne faut pas hésiter, on produit beaucoup de matière en sensibilisation, des petites vidéos, des livrets, il y a beaucoup de choses où on essaye vraiment de déconstruire tout ce qui nous est présenté dans les médias de masse et de donner des informations fiables et aussi très concrètes avec des exemples très précis de ce qu'on constate. Donc il ne faut pas hésiter à aller se renseigner aussi à la source. C'est un devoir démocratique, je pense, de varier les sources d'informations. C'est important, si on veut regarder CNews, d'aussi aller questionner, regarder ce qui se dit ailleurs pour se faire sa propre opinion. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de varier les canaux d'information. Et donc, il ne faut pas hésiter à aller aussi consulter ce que produisent les associations, puisqu'on est quand même sur le terrain, on constate les choses, on a une vraie expertise. Et donc, je pense que c'est vraiment important que les personnes prennent le temps et fassent l'effort d'aller aussi lire peut-être parfois des discours qui ne seraient pas ceux auxquels elles adhéreraient tout de suite, mais c'est important de le faire.
C'est important de pouvoir effectivement semer le doute, je pense, dans ce qui est diffusé à grande échelle et qui peut-être, en creusant un petit peu, nous permettrait d'être inquiets et en même temps de se dire qu'il faut agir. On a aussi en France cette possibilité d'action. Donc je crois que nous allons arriver au terme de cette émission. Je rappelle donc qu'il y a un projet de loi pour empêcher les associations d'intervenir dans ces lieux de privation de liberté où des personnes sont enfermées uniquement parce qu'elles n'ont pas de papier, et rappeler qu'il y a un devoir de respecter le droit, la Déclaration internationale des droits de l'homme, et qu'il est important de peut-être, vous-même, en tant qu'auditeur, auditrice, de ne pas hésiter à aller visiter ces centres, à aller demander des renseignements, de communiquer avec vos députés. Et puis, je remercie du coup Marie Moreto, qui est venue ce matin nous éclairer sur cette question gravissime de la mise en considération des droits de l'homme. Je remercie William à la régie et je vous dis à une autre fois. Merci.
Merci beaucoup.